arrivé à tous et merci d'avoir bravé la pluie pour nous rejoindre jusqu'à cette salle d'atelier. Je m'appelle Marion Moulin, je suis déléguée générale de l'association Possible. On est une asso qui existe depuis 10 ans et qui intervient à Lyon, donc dans le champ pénal et carcéral, avec notamment des activités de sensibilisation du grand public, des jeunes, des entreprises aux questions d'inclusion des personnes placées sous main de justice. Et également, on accompagne des porteurs de projets qui souhaitent créer des nouvelles initiatives à destination de ce public. Et donc, on a la chance d'avoir été invité aujourd'hui au festival Concertina pour animer un atelier sur le thème de la fabrique du travail, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a à peine un peu plus d'un quart des personnes détenues qui ont accès à un emploi durant leur détention, et que la sortie de prison n'est pas plus simple en termes d'insertion professionnelle, puisque ça reste un parcours semé d'embûches et que c'est un sujet pour lequel il y a des enjeux importants. Parce qu'au-delà du statut social qui peut apporter des liens qui peut permettre de créer, bien sûr, le travail répond à un besoin de ressources économiques, quand on sait que plus de 60% des personnes qui sont détenues sont en situation de grande précarité socio-économique au moment de leur incarcération, et avec pour bon nombre d'entre eux un faible niveau de diplôme et de qualification professionnelle. Et ça nous paraissait intéressant, à travers des témoignages, de montrer deux exemples concrets que ça peut fonctionner, qu'on peut faire ce choix-là, voilà, d'embaucher un public qui peut apparaître inquiétant ou plus éloigné de l'emploi, et voir comment ça se met en place, avec un témoignage autour de la façon dont ça s'est fait, et puis aussi de ce que ça apporte comme valeur, et aussi des difficultés que j'imagine que ça peut engendrer. Donc on va vous laisser la parole pour un témoignage très libre. Et puis
qu'est-ce qui vous a intéressé quand Concertina vous a proposé d'animer du coup cette rencontre autour du travail avec ces deux chefs d'entreprise ?
Ce qui nous a intéressé, c'est la thématique, déjà parce qu'effectivement on trouve qu'il y a un réel sujet autour de la question de l'insertion professionnelle des personnes sous main de justice, qu'aujourd'hui dans le climat général autour de l'emploi en France, qui n'est pas forcément évident pour des personnes particulièrement fragilisées que sont les personnes qui sortent de détention et qui, avant d'être des personnes détenues ou anciennement détenues, sont avant tout en règle générale des personnes qui sont en grande situation de précarité socio-économique, et c'est important de le rappeler parce que c'est pas forcément une évidence. Ça nous a intéressé de se dire qu'il y a des entrepreneurs qui faisait ce pari-là, pour qui c'était positif, puisqu'il continue à faire et à développer ce type d'accueil, et que ce témoignage pouvait permettre d'encourager d'autres chefs d'entreprise à se lancer, puisqu'on a un besoin réel. Il y a beaucoup de structures d'insertion par l'activité économique qui accueillent ces publics, mais on a aussi besoin que des entreprises dites classiques acceptent de se faire ce pari-là, et il y en a aujourd'hui beaucoup trop peu. Donc on trouvait que voilà, c'était un média intéressant, le festival, pour pouvoir porter cette question-là, et aussi donner une tournure positive des choses, en se disant qu'on pouvait le faire, que certes ça avait son lot de complexités et de difficultés, mais que ça apportait beaucoup de choses aussi aux entreprises et aux équipes qui accueillaient ce public. Et donc voilà, on trouvait ça important toujours de donner aussi une tonalité positive, parce que la thématique de la justice et de la prison, voilà, c'est une thématique qui globalement est lourde et peu évidente, et qu'il faut aussi arriver à la mettre en avant sous des angles un petit peu différents.
Donc Luc, donc Loffenstein, donc j'ai créé une entreprise il y a maintenant une bonne dizaine d'années, donc Tendance Gabion. Alors juste pour présenter rapidement, c'est pas le sujet, mais juste pour comprendre un petit peu le contexte, donc c'est une entreprise spécialisée dans la vente de matériel pour faire des gabions. Donc les gabions, ce sont des cages métalliques que l'on remplit de pierre, qu'on voit de plus en plus au bord des routes, sur des ronds-points, etc. Et donc on a une activité auprès des particuliers, auprès du paysagiste. Alors je n'ai pas de lien direct avec la prison. Le contact s'est fait via une association locale XP2I qui nous a en fait contacté pour voir si on pouvait éventuellement travailler déjà avec les équipes propres à leur association sur des missions ponctuelles. Et puis de fil en aiguille, en fait, ça aboutit à l'embauche d'anciens détenus, en fait, mais qui étaient passés par cette association, en fait.
Et comment vous les avez rencontrés la première fois, et quelles ont été les expériences, du coup, que vous avez mis en place ?
Alors, on a eu trois expériences. Hein. Sur les deux dernières expériences, en fait, c'est des jeunes qui étaient venus dans le cadre d'opérations ponctuelles, de manutention ou de montage de gabions. Donc, en fait, on les a vus quelques jours travailler avec nos équipes. Et donc, et c'est suite à ces expériences qu'effectivement, on a vu avec l'association, en fonction des personnes, voilà, quelle pourrait être la personne qui pourrait effectivement bénéficier d'un poste. Et en même temps, c'est des postes que nous avions vraiment, enfin on avait des besoins réels, et donc ça nous a permis un peu de voir aussi travailler les gars. Il fallait quand même des gars assez costauds pour un travail de manutention, et donc on a pu faire un peu connaissance avec eux, sentir un petit peu les choses, et il y a eu un feeling qui s'est passé avec eux, et du coup, voilà, ça a abouti à une embauche. Ça s'est fait, voilà, naturellement, comme ça.
C'est assez impliquant émotionnellement. Comment vous avez investi vos équipes? Comment vous les avez prévenues? Et quelle posture vous avez pu adopter, vous, la posture qui vous a semblé juste?
Alors, c'est une décision que j'avais prise avec mon associé, Nicolas Lebas, que je connais depuis très très longtemps. On est aussi en lien de famille. Et puis, donc, on avait vraiment tous les deux envie, effectivement, de tenter l'expérience. Ensuite, on a décidé de le faire. On l'a imposé, entre guillemets, à nos équipes en expliquant la démarche. Et alors, effectivement, une surprise, ça a été de voir qu'au-delà de l'embauche et du travail au sein de l'entreprise, il y a eu tout un accompagnement, on va dire. Alors, pas pour tous les cas, mais pour un cas en particulier où il a fallu être assez présent pour lui dans la vie du quotidien à côté du travail, où finalement, alors des choses qu'on a faites avec Nicolas, que j'ai faites beaucoup moi au début, d'aller véhiculer la personne, de l'emmener à des rendez-vous médicaux, de l'emmener à la recherche d'un véhicule pour se déplacer, etc. Et de voir qu'au fur et à mesure, finalement, cette aide, entre guillemets, à côté du travail, en fait, ce sont des collègues, donc d'autres salariés qui, au fur et à mesure, ont pris le relais et ont pu effectivement donner de leur temps, leur énergie pour aller le chercher, le conduire, etc. Et donc ça a créé quelque chose d'assez sympa, une forme de solidarité au sein de l'entreprise. Et puis l'occasion aussi pour ces salariés qui peut-être des fois sont un petit peu habitués à se gérer juste eux ou d'être un petit peu dans leur confort, de se retrouver finalement confrontés à des gens qui sont dans un besoin d'aide, dans un besoin concret de logistique et de finalement se montrer solidaire envers ces personnes, ça a créé quelque chose de vraiment intéressant. Nous sommes une petite entreprise, une dizaine de personnes, donc forcément, quand il y a une personne qui rejoint l'équipe, ça fait 10% des effectifs, donc c'est vite énorme. Et au sein de l'équipe logistique, quand il y a trois personnes et il y a une personne qui nous rejoint, on est à 25% d'effectifs, donc ça fait... Il y a forcément un impact au sein de l'entreprise, alors pas seulement au niveau de... Alors c'était des personnes qui étaient salariées pour aller aider justement au niveau logistique, mais il y a aussi le service administratif qui a été impliqué, parce qu'il a fallu faire des démarches, accompagner la personne concernée dans des démarches de prise de rendez-vous, par exemple, de démarches de déclaration au niveau de la mutuelle. Enfin, il y avait pas mal de choses qui ont été faites, et finalement ça n'a pas impliqué que la direction ou l'équipe de logistique qui était impliquée directement, mais toute l'entreprise finalement s'est retrouvée impliquée de près ou de loin à l'accueil de ses salariés avec un profil particulier.
Quelle est la situation en termes d'inclusion des personnes placées sous main de justice actuellement en France, pour avoir une idée un peu en quelques mots?
Elle reste extrêmement difficile. Les retours qu'on a de toutes les associations et des personnes concernées qu'on accompagne, c'est de dire que c'est des personnes qui rencontrent des problématiques qui sont multiples et cumulées. On a de plus en plus en détention de personnes qui souffrent de problèmes d'addiction, qui souffrent de troubles de la santé mentale, et la prison n'est pas un lieu de soins pour ce type de personnes. Et donc du coup, ça rend l'inclusion très difficile, et donc c'est compliqué de l'aborder uniquement sous un angle qui serait par exemple l'insertion professionnelle. Il faut forcément avoir une approche qui soit beaucoup plus globale et qui prennent en compte aussi les difficultés d'hébergement, les questions de surendettement. On a un nombre extrêmement important de personnes détenues qui sont en situation de surendettement. Et malheureusement, aujourd'hui, les services de droit commun à l'extérieur sont déjà eux-mêmes en difficulté. On voit les difficultés de l'hôpital psychiatrique, des services comme la CAF, comme Pôle emploi, les missions locales. Donc voilà, les personnes détenues, eux, arrivent avec en plus des problématiques qui sont très nombreuses. Et aujourd'hui, on reste quand même dans un accompagnement qui est plutôt découpé. On a des acteurs de l'insertion professionnelle, de l'hébergement, de la santé mentale, etc. Pour des personnes qui auraient plutôt besoin d'un parcours et d'un suivi qui soit global. Ce qui essaie d'être développé, mais qui est encore à ses prémices, c'est l'idée d'éviter les ruptures de parcours et de faire vraiment du lien dedans-dehors, de commencer à suivre les personnes quand elles sont encore détenues, et ensuite de poursuivre une fois qu'elles sont sorties, pour éviter ce gap qu'il y a au moment de la sortie, et où le temps que les personnes accèdent au droit commun, en fait, c'est extrêmement compliqué. On a un grand nombre de personnes qui sortent sans domicile, sans domiciliation, sans compte bancaire, et donc ne serait-ce que pouvoir toucher le RSA, même s'ils y ont droit, ça peut prendre plusieurs mois. Et ces mois-là, c'est des temps de latence qui sont propices à la récidive, forcément. Sans même parler des problématiques très fortes qui ont été un peu évoquées, mais d'isolement social, qui est aussi très important. et de cette question voilà, de la stigmatisation, des discriminations auxquelles ils font face et d'un isolement très important.
En quoi le regard sur la responsabilité sociale des entreprises, sur l'emploi des détenus a changé ? Est-ce qu'il est lui aussi plus positif ?
C'est difficile d'évaluer dans le temps, je trouve, de savoir s'il est plus positif qu'avant. Je pense que ce qui est sûr, c'est qu'on parle plus du sujet qu'avant. Comme c'est un axe gouvernemental fort de porter cette question du travail en détention, voilà, il y a déjà une volonté politique. Ça, je trouve que c'est quand même une nouveauté par rapport aux années précédentes. Voilà, on se préoccupe du fait que les personnes détenues n'aient pas accès à l'emploi en détention, qu'elles aient d'importantes difficultés d'insertion professionnelle. Il y a beaucoup d'expérimentations qui ont été mises en place sur la création d'entreprises adaptées pour les personnes en situation de handicap en détention, autour de l'ouverture d'ateliers chantiers d'insertion dans les prisons. Donc on sent qu'il y a quand même une volonté politique et dans une certaine mesure des moyens qui y sont alloués, même si on pourrait toujours arguer que les moyens ne sont pas forcément à la hauteur des besoins. Il y a, c'est un fait, plus de moyens qu'avant et une réelle volonté. Après, je trouve ça difficile d'évaluer dans quelle mesure voilà, on a une action de sensibilisation, on fait venir des employeurs, ils en parlent. Après, ce que ça donne réellement en termes de mise en action, de passage à l'acte, voilà, d'entreprises qui décident vraiment d'accueillir derrière, ça, je pense qu'on n'a pas suffisamment de recul aujourd'hui pour vraiment évaluer. Je pense qu'on en est encore à l'étape du changement de regard et qu'il y aura, j'espère, ensuite une seconde étape vraiment de mise en action.
Bonjour, je m'appelle Olivier Fina, je suis le fondateur et le dirigeant d'une société qui s'appelle l'Atelier Luxe, qui est une société qui fabrique des écrans, des coffrets, des emballages, des accessoires pour les grandes maisons de luxe. On a la chance d'avoir plein de grandes maisons de luxe en France. J'ai la chance de pouvoir travailler pour les maisons comme Hermès, Chanel, Dior et compagnie. Et, voilà. Et dans le cadre de cette activité professionnelle et des ateliers qui sont dans l'Isère, pas très très loin d'ici, on a décidé de faire de l'innovation dans différents domaines et on a décidé de placer au sein même de la stratégie de l'entreprise un programme d'innovation sociale et solidaire parce que ça nous paraissait important, c'était une valeur qu'on voulait véhiculer, de montrer qu'une petite PME pouvait avoir un cœur, pouvait avoir la capacité de tendre la main à des populations très défavorisées. Et on a choisi comme population des jeunes générations de mineurs condamnés à des peines de justice entre l'âge de 13 et 18 ans pour les accompagner pour la sortie des problèmes judiciaires, les accompagner vers un programme de formation, d'avoir un métier. Avoir un métier, c'est avoir après un contrat de travail, un salaire, et c'est de trouver une autonomie, une liberté et surtout une dignité par rapport aux problèmes qu'ils ont eus. Et ça les sort, l'objectif premier, de les sortir de la délinquance et éviter la récidive. Alors on a créé un programme qui s'appelle Ascension vers l'insertion. Ascension parce que les jeunes que l'on suit, on les emmène pendant 3 jours au début du programme marcher en montagne. Pourquoi en montagne ? Parce qu'on les emmène dans un lieu qu'ils ne connaissent pas du tout, ils perdent un peu leurs repères, et surtout un lieu qui prête à créer la relation. C'est des jeunes dont ils ne sont même pas capables de passer un entretien. Donc pendant 3 jours, c'est un moyen de les rencontrer, de les évaluer, de les connaître, de se découvrir, de s'apprécier. On s'est dit, il faut faire un pas en avant, il faut faire un pas vers l'autre, vers ces gens qu'on ne connaît pas. Je crois qu'il faut, dans notre pays, avoir une vision lucide de la fracture sociale et culturelle qui existe dans notre pays. Il faut oser la solidarité, il faut oser la fraternité, la solidarité vis-à-vis de gens qu'on ne connaît pas. C'est facile d'aider des gens qu'on connaît, mais ceux qu'on ne connaît pas, il faut vraiment oser se lancer dans le vide. Donc on s'est beaucoup lancé dans le vide. Après, moi j'ai la chance d'avoir signé un partenariat avec le ministère de la Justice. Et dans le ministère de la Justice, il y a ce qu'on appelle la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, qui est la partie du ministère de la Justice qui suit les jeunes mineurs. Et les jeunes que l'on suit sont accompagnés par des éducateurs et des éducatrices de la PJJ qui les connaissent avant nous, qui les ont suivis avant nous et avec qui on est très proches pour qu'ils nous aident à continuer à faire le suivi de ces jeunes pendant la formation et l'insertion chez nous et surtout dans la vie au-dehors de l'entreprise, parce qu'on a constaté avec Luc, c'est fondamentalement pas forcément dans l'entreprise que ça pose des problèmes, c'est qu'ils sont rattrapés par des faits de vie de leur vie perso sur lequel on n'a pas droit de regard. Moi, j'ai le droit, en tant que chef d'entreprise, d'avoir une certaine autorité dans mon entreprise. On n'est pas au-delà de l'entreprise. Et là, on est accompagné par ces éducateurs qui nous aident à faire aussi le suivi de ce qui se passe en dehors de l'entreprise. Et ce sont des gens dont c'est le métier. Donc moi, ça m'a... Enfin, à la fois, je me sens seul. À la fois, je me suis senti à me jeter dans le vide, et à la fois, voilà, je suis aussi quand même allé chercher ce soutien du ministère de la Justice avec la PJJ, dont les éducateurs sont des gens remarquables parce qu'ils vivent dans les foyers avec ces jeunes 24 heures sur 24.
L'entreprise est un maillon important en fait de ce déroulé d'accompagnement entre associations, pouvoirs publics et justement entreprises. Est-ce que les entreprises sont prêtes à jouer ce rôle-là dans les instances peut-être où on les retrouve ?
On en trouve, mais encore en nombre trop insuffisant. Effectivement, pour nous, elles sont un maillon indispensable de cette chaîne-là. Et on en trouve un certain nombre qui sont réellement engagés. Par exemple, le travail d'intérêt général, qui est une alternative à la prison. Il y a beaucoup de groupes qui s'en sont saisis. Alors, ce n'est pas ouvert encore aux entreprises classiques, mais des groupes qui ont des délégations de services publics, comme la SNCF, par exemple, jouent vraiment ce jeu-là de façon assez marquée. Mais voilà, aujourd'hui, on a un problème aussi de quantité, en fait. C'est qu'on a plus de 200 personnes qui sortent par jour de détention. Une majorité sont sans emploi, et les entreprises qui acceptent de jouer ce rôle-là, elles existent, mais elles sont encore trop peu nombreuses et elles ont elles-mêmes leurs propres contraintes. On entendait les entrepreneurs cet après-midi qui disaient, voilà, ils ont un petit effectif, ils peuvent accueillir un certain nombre de personnes, mais ça restera toujours trop limité. Et donc on a toujours cette question de comment on raccroche au droit commun et comment aussi on arrête peut-être de considérer les personnes sous main de justice comme une catégorie un peu à part. Ce sont des personnes en recherche d'emploi, ce sont des personnes en situation de précarité, et il y a ce risque aussi de cliver l'ensemble des publics et de hiérarchiser un petit peu les publics dans le besoin. Donc c'est aussi comment on ramène cette question-là juste à une question plus générale de politique de lutte contre la pauvreté, de politique d'accès à l'emploi, voilà, sans forcément en faire une catégorie particulière.
Qu'est-ce que vous avez appris lors de cette rencontre avec ces deux chefs d'entreprise ? Quelle valeur ce partage a eu à vos yeux et ce moment partagé avec le public ?
Le ressenti que j'ai eu, moi, c'est que ça m'a donné quand même beaucoup d'optimisme et d'espoir dans un secteur où on voit passer quand même au quotidien dans les médias beaucoup plus de mauvaises nouvelles que de bonnes. Donc moi, ça me donne quand même beaucoup d'espoir que des gens qui sont pas particulièrement militants sur la thématique prison, qui sont pas particulièrement sensibilisés au ce sujet, aient pris ce pari-là de façon assez simple et assez humble. Je retiens vraiment le côté humble de leur démarche aussi et d'accepter de faire quelque chose qui est long, qui est difficile et de s'être lancé là-dedans sans savoir quels seraient les bénéfices qu'ils allaient en tirer, puisque finalement ils voient les effets positifs, mais a posteriori. Et j'ai trouvé ça du coup assez impressionnant. Et j'ai beaucoup aimé le caractère très humble de leur démarche qui m'a touchée, et où je me suis dit que voilà, si on arrivait à convaincre des gens qui sont pas du tout sensibilisés à cette question, bah, de faire ce pari juste parce qu'à un moment donné, il y a eu une opportunité, quelqu'un est venu les voir en disant est-ce que tu voudrais pas embaucher un tel, est-ce que tu voudrais pas faire un partenariat avec des jeunes, bah finalement en fait ce petit déclencheur là peut suffire. Ça me rend quand même assez optimiste sur le sujet. Et c'est une belle aventure humaine dans laquelle ils ont embarqué aussi plein de gens autour d'eux, leurs équipes, et donc ce qui était à la base un peu une décision individuelle de leur part, on voit aussi que c'est devenu une aventure collective où ils ont embarqué d'autres gens, et ça on se dit bah, un peu que cet effet boule de neige où une personne décide de faire quelque chose et puis ça embarque les autres et ça finit par les convaincre aussi, ça pourrait permettre un jour d'arriver à gagner un peu cette question du grand public et de comment voilà, on donne une autre image à l'opinion publique de façon plus générale, au-delà de celle qui peut être véhiculée par les médias, qui est très autour du fait divers, du sensationnalisme, etc. Ça permet de sortir un petit peu plus ça et de voir les choses de façon beaucoup plus simple finalement.
Luc Kloppenstein, vous avez conclu la rencontre tout à l'heure en parlant de retrouver du sens. Qu'est-ce que vous diriez de cette notion de donner du sens à votre rôle de chef d'entreprise un petit peu ?
Ben, c'est vrai que, en fait, en tant que chef d'entreprise, ben, on a une responsabilité ben, de faire tourner la boîte. Il faut que ça tourne, qu'on puisse ben, effectivement générer du bénéfice pour pouvoir payer les salaires, pouvoir se payer, etc. Donc on a cette obligation-là. Ou des fois, on peut aussi se perdre un petit peu dans cet objectif, on va dire, de réussite et de résultat. Et le fait de finalement se dire, allez, on ouvre un peu notre horizon et on prend du temps, on prend de l'énergie pour finalement tendre la main à quelqu'un qui a besoin d'un coup de main sur son chemin de vie, bah, ça permet aussi de redonner un peu du sens à ce que l'on fait. C'est-à-dire, l'entreprise, c'est pas juste du business, mais on peut aussi avoir un rôle bah, sociétal. On en parle beaucoup, effectivement, dans les médias et un peu partout. Et c'est une manière concrète de le manifester. Et c'est vrai qu'on peut pas tout attendre de l'État, on peut pas tout attendre des associations. Et il y a probablement une responsabilité aussi des entreprises d'arriver à contribuer à l'insertion de personnes qui sortent de prison, parce que c'est un sujet qui est très très important. Et j'imagine, je pense, beaucoup de choses à faire encore. Et donc voilà, donc c'est quelque chose qui a apporté. Et puis c'est une façon aussi un petit peu de bousculer un petit peu toute l'équipe. Alors moi en premier, en tant qu'initiateur de ce projet au sein de l'entreprise, mais toute l'équipe finalement s'est retrouvée un petit peu bousculée, ben, des fois dans un petit confort, des fois dans un train-train un petit peu du quotidien. Et on se retrouve interpellé par des situations de personnes qui effectivement rencontrent des difficultés, que l'on a rencontrées et qui ont effectivement sont dans une situation de... Voilà, où il y a besoin de les accompagner, et c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment apporter. Et j'encourage les chefs, peut-être les chefs d'entreprise ou les chefs de service qui entendent cette émission, et à se poser la question, et pourquoi pas moi, tout simplement.